Nous sommes de retour en direct de ce plateau pour la COP d'ici. Nous sommes place de la Calade et nous sommes rejoints par téléphone par un membre de l'organisation Énergie 2050. C'est Stéphane Poufari. Énergie 50 était donc présente lors de la COP 28 à Dubaï et nous allons pouvoir avoir un retour sur justement cette COP. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour à tout le monde.
Merci d'être avec nous pour nous faire donc justement ce retour sur cette COP 28. Victor et Jordan ont beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous souhaitez poser comme question à Stéphane ?
Bonjour Stéphane, ravi de t'avoir avec nous. Hein. C'est un vrai plaisir surtout d'avoir quelqu'un qui était donc présent sur place. Je serai accompagné donc de Victor et Jacques hein, pour te poser quelques questions bien sûr sur ce qui s'est passé là-bas. Mais déjà, j'ai bien envie de savoir un peu ce que c'est Énergie 2050.
Alors, bonjour à tous. Donc Énergie 2050, c'est une association depuis une quinzaine d'années et un réseau depuis une vingtaine d'années qui travaille sur la systémique du développement, dont le climat, l'énergie, la transition territoriale ou autre. On travaille autant avec des États qu'avec des gouvernements locaux et aussi on fait des projets multi-acteurs, multi-parties sur le terrain. Et notre spécificité, c'est qu'on est indépendant dans le sens où on ne reçoit aucune subvention de fonctionnement. Donc on a des projets dans 70 pays à peu près, et c'est essentiellement du membership, des donations et des appels à projets. Voilà.
Comment ça se fait que du coup, toi, tu étais à la COP28 sous le nom de Stéphane Poufari ou avec vraiment tu étais un représentant d'Énergie 2050 ?
Alors, moi j'y étais, on est plusieurs d'ailleurs, puisque moi j'ai dû rentrer bon, pour des petites questions familiales, mais du coup j'en ai encore des collègues qui sont là-bas. Et en fait, on accompagne des délégations et on accompagne aussi des coalitions, notamment on travaille avec le groupe africain des négociateurs et d'autres pays. Et donc en fait, on produit notamment annuellement le guide des négociations climat pour la francophonie. Alors d'habitude, on travaille en anglais, mais là en l'occurrence, c'est des exemples en français. Et donc on a les mains dans le cambouis des négociations. Évidemment, c'est les États parties qui négocient, mais nous derrière, on fournit des informations. Et puis au-delà de ça, c'est un peu dans ces grandes enceintes, il y a énormément de ce qu'on appelle des side events, des événements parallèles pour mettre en avant des coalitions, des initiatives, des solutions possibles et des prises de position. Et là, on en a eu un certain nombre. Et d'ailleurs, encore demain, on en a jusqu'à la fin, en fait. Voilà.
Et donc, quel est l'objectif de ces prises de position et de ces négociations ? Est-ce que l'objectif, c'est d'arriver à pouvoir rentrer quelques phrases ou quelques éléments dans l'accord final ?
Alors, c'est compliqué en fait, parce que je pense qu'il y a souvent une mauvaise compréhension de ce que c'est que la COP et de ce qu'elle peut délivrer. Je pense que moi, juste à titre perso, ça fait une vingtaine de COP que je fais, donc ça fait presque 30 ans que je travaille sur ces sujets, et on a des collègues qui sont là depuis quasiment l'origine du processus onusien. Je pense que la COP, faut pas oublier que c'est 198 États partis. Donc 197 États avec des intérêts essentiellement divergents, des axes de possible coopération, mais j'insiste, des intérêts souvent divergents. Et donc du coup, c'est comme si on voulait trouver un consensus dans une grande famille. Il y a la science. Je vous rappelle, je pense que vous savez tous que depuis l'accord de Paris, depuis 2015, le GIEC est devenu l'organe scientifique, alors qu'avant il était simplement un organe qui produisait de la science. Et donc normalement, les décisions de la COP doivent être adossées à la réalité scientifique. Alors on sait bien que c'est pas vrai, que c'est pas le cas, pour foule de raisons, et qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. Mais j'ai envie de dire, pour garder quand même que tout le monde comprenne bien pourquoi nous, par exemple, on est toujours à la COP et d'autres acteurs doivent y être, parce que c'est ce qu'on appelle le cadre de transparence et de redevabilité. Et je pense que beaucoup de gens l'oublient, c'est qu'en fait, si on n'a plus cette enceinte, et c'est pareil pour les différentes conventions, et ou les différents grands partenariats mondiaux sur les forêts ou autres, c'est que si on n'a plus ces grandes enceintes avec des méthodes, j'ai envie de dire, reconnues, partagées dans l'ensemble des pays, et avec une redevabilité, c'est-à-dire des cadres de transparence, ben on va rentrer dans une phase de flou, où chacun pourra avoir le narratif qu'il veut. Et donc du coup, nous, on soutient le multilatéralisme, quand bien même, on est évidemment extrêmement conscient, parce qu'on a les mains dans le cambouis depuis des années de dessus, de toutes les limites de l'exercice, que ce soit au niveau national et ensuite la déclinaison au niveau des acteurs, et évidemment les lobbies, j'imagine qu'on va en parler ensuite, et de tous ces acteurs-là, mais qui correspondent à la réalité de notre société. On doit le combattre, c'est très clair, mais néanmoins, ce cadre onusien, pour nous, il est un peu sacré, parce qu'on voit très bien les tendances, et je pense que chacun d'entre vous l'aura observé avec aujourd'hui tous les conflits woke, les narratifs, où les gens remettent la science, remettent la réalité des faits. Demain, rentrer dans des phases de bilatéral, de trilatéral, pour faire du narratif sur le climat, ce serait juste la fin de notre histoire collective, quoi. Voilà.
Alors je te propose de te poser un peu quelques questions sur cette COP28, de comment ça s'est passé, parce que donc tu étais, et bien sûr dès le début il s'est passé quand même quelque chose d'assez vraiment intéressant. En tout cas, ça a été extrêmement médiatisé. Il y a eu un accord sur le fonds pertes et dommages dès le début de l'accord. Est-ce que tu pourrais m'en parler, m'expliquer un peu ce que c'est, parce que ça a été pas mal dit dans les journaux et les médias, et c'est vrai que quand on est entre guillemets pas sensible forcément à ces enjeux là c'est difficile de comprendre ce que cela signifie.
Alors, c'est une bonne question. Alors, effectivement, ça a fait la une des médias parce que ça touche à un sujet assez important, symbolique, mais de fait extrêmement important, qui a à voir avec ce qu'on appelle la justice climatique. Et donc, mais là où les gens l'oublient, c'est qu'en fait, c'est un processus très ancien. Ça a commencé en 91, en fait. Le Vanuatu, à l'époque, qui était dans le groupe Oasis, un des États insulaires, avait déjà demandé un mécanisme d'assurance. Ça n'avait pas été retenu dans la déclaration finale. Et depuis, il y a eu sans cesse des tentatives, avec évidemment le frein de plein de pays, parce que tout bêtement, pour des raisons de responsabilité historique, la plupart des pays ne voulant pas un processus ni d'assurance ni d'indemnité pour réparer, parce qu'évidemment on peut imaginer tous les processus de cours ou autres. Donc du coup, en 2013, on a eu la création du mécanisme international de Varsovie, qui est un peu les prémices du fonds de pertes et dommages. On a eu toutes les difficultés du monde qu'on peut imaginer en 2015 avec la COP21 ou autre. Et du coup, les pertes et les dommages correspondent aux phénomènes météorologiques extrêmes et aux phénomènes à progression dites lentes, comme par exemple la montée des eaux. Et du coup, ce qui a été une avancée assez significative, ça a été en 2019, c'est pour ça que beaucoup de gens datent ce fonds-là depuis 2019, à Madrid, à la COP25. Et là, du coup, il n'y avait toujours pas le fonds de pertes et dommages, mais il y a eu ce qu'on appelle le réseau de Santiago, qui est l'organe de mise en œuvre et scientifique au processus de pertes et dommages. Et du coup, jusqu'à la COP de Sharm el-Sheikh, donc la COP27, en fait, il n'y avait pas grand-chose sur la table de réel. Et là, miracle, il y a eu cette décision. Et effectivement, là, pour le coup, faut dire que c'est un coup d'essai qui a été fait, c'est-à-dire qu'en fait ça a été approuvé le jour même de l'ouverture, avec d'autres choses d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans le technique pour les gens qui ne suivent pas les négos, mais par exemple même l'agenda des négos, qui est toujours très compliqué parce que c'est très politique, a été validé le jour de l'ouverture, ce qui est quand même assez rare. En général, il y a toujours des discussions pour l'épaisseur d'une ligne, mais néanmoins voilà, donc ça a été approuvé. Mais maintenant, je vais quand même être un peu moins enthousiaste que la plupart des gens. Dedans, aujourd'hui, il y a des annonces à peu près 700 millions d'euros, mais je vais vous dire franchement, c'est une goutte d'eau par rapport à la réalité, et se pose plein de questions de mise en œuvre sur comment on va faire le first in, first out, qui va récupérer, qui va pouvoir bénéficier, comment on va hiérarchiser, comment on va organiser. Et dernier petit point sur le fonds pertes et dommages, je ne sais pas si les gens en France ont vu passer l'information, quelques jours, je crois que c'était le 28, on était déjà là-bas, nous, avec nos collègues négociateurs africains. En fait, il y a eu la validation d'un texte préparé début novembre qui demandait à ce que le fonds transitoire pertes et dommages soit hébergé au sein de la Banque mondiale pour un fonds fiduciaire de 4 ans. Et effectivement, les pays en développement étaient contre. Beaucoup de négociateurs ont préféré ne pas réouvrir, parce qu'il y a toujours moyen de bloquer un texte, mais de ne pas réouvrir une boîte de Pandore, puisque c'est un sujet complexe. Et on avait peur de perdre les quelques avancées, j'ai envie de dire, qu'on a eues sur le sujet. Mais j'insiste, le financement est juste dérisoire, et on ne sait pas encore les modalités, on ne sait même pas encore comment on va organiser les bénéficiaires, les droits de tirage et l'organisation. Voilà. Mais j'insiste, les financements sont vraiment anecdotiques par rapport aux besoins de résilience et d'adaptation des enjeux, sachant que le perte et dommage n'est pas de l'adaptation, c'est pour vraiment ce qui est à côté de l'adaptation. C'est donc des questions de résilience et de phénomènes lents et extrêmes. J'essaie de faire simple parce que c'est quand même très complexe en fait, les négociations, paradoxalement, mais on est obligé de rentrer là-dedans pour avancer.
Oui, bien sûr, mais après ce qu'on comprend en tout cas d'un point de vue extérieur, c'est que c'est quand même une première étape nécessaire, on va dire, pour la mise en place de ce type de fonds à une plus grande échelle, en tous les cas.
C'est ça, c'est une étape nécessaire, et d'autant plus que ça sanctuarise, alors j'emploie un mot que j'aime pas trop dans le cadre des négociations climat, mais ça sanctuarise quand même la reconnaissance de fait de ces processus, qui était une demande résiliente, récurrente des pays en développement. Et même si j'ai envie de dire, toujours je reviens un peu à ce que je disais sur la COP en général, quand bien même on n'aura pas demain des centaines de milliards ou j'ai envie de dire plus par an pour répondre aux vrais besoins, en tous les cas on va travailler sur un cadre méthodologique. Et vous avez compris que pour nous à Énergie 2050 c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on arrive à mesurer, il faut qu'on arrive à avoir des indicateurs, il faut qu'on arrive à travailler pour comment mettre en place demain des processus assurantiels, d'indemnisation, de financement.
Alors cet événement, il y avait presque, si j'ai bien compris, il y a 70 000 personnes qui sont présentes à cet événement. Donc c'est quand même un événement qui est assez important et qui en plus est présidé par donc, le sultan Al-Jaber, qui est le président de la compagnie pétrolière des Émirats Arabes Unis. Est-ce que, j'imagine que tu as un avis assez tranché sur le sujet, mais est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les raisons de ce choix et tout simplement quel impact ça peut avoir sur les décisions à terme de la COP28?
Alors, je vais être super, super brutal. En fait, c'est pas ce choix qui nous pose un vrai problème. C'est que derrière tous ces choix, depuis des années, on n'est pas sur la bonne trajectoire et la fenêtre des 1,5 degrés se referme quasiment. Je vais juste vous dire un peu, c'est que si aujourd'hui on prend, alors je sais pas si tout le monde connaît les contributions déterminées au niveau national, c'est les engagements pris par les États partis et où il y a aussi les stratégies long terme ou autres, comme l'Europe par exemple, sa neutralité carbone 2050. Si on additionne tout ce qui est aujourd'hui sur la table, j'ai pas dit qu'on le mettait en œuvre, si on additionne tout ce qui est sur la table, on va réduire à 2030 de 2% nos émissions au lieu des 43% nécessaires pour rester dans une trajectoire compatible avec les 1,5. Donc ça, c'est une vraie réalité qui est un vrai problème. Deuxième point, si on additionne l'intégralité aujourd'hui de toutes les contributions déterminées au niveau national, on est plutôt sur un scénario 2,9. Alors après, ça varie parce que c'est des scénarios, donc il y a des trajectoires tendancielles, mais plutôt 2,9 degrés. Donc là, on voit bien que c'est lourd et qu'on est vraiment dans un grand écart. Ça, c'est la première chose, donc il y a une vraie préoccupation. Deuxième point, pour revenir à la question sur l'énergie. L'énergie, c'est très complexe dans le cadre des COP. Pourquoi ? Parce que c'est pas un sujet de négociation. Voilà. C'est la première année où il y a un high level segment, donc un segment de haut niveau sur l'énergie, qui reprend un peu la science et qui reprend un peu les derniers rapports qu'on a de l'AIE et d'autres sur la transition avec le triplement des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, la baisse du financement et des émissions, donc tout ce genre de choses. Mais donc, du coup, une fois que j'ai dit ça, pourquoi il s'est retrouvé président ? Alors, j'ai envie de dire, parce que tout bêtement, c'est comme ça qu'on choisit les pays. Ça veut dire, ça tourne, il y a 5 régions onusiennes, ça tourne, et il y a des candidatures. Et dans la région onusienne où il y a l'accueil, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, si un pays décide et qu'il n'y a pas de non-objection d'autres pays de la même zone, c'est lui qui est choisi. C'est pour ça qu'on a Dubaï, et je ne sais pas si vous le savez déjà, mais l'année prochaine, on pense que ça va être l'Azerbaïdjan, et je pense que tout le monde a compris que ce n'est pas aussi un gentil joueur sur le parti des énergies fossiles. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, et l'Azerbaïdjan, ça a fait l'objet de luttes, parce qu'il y avait aussi plusieurs pays, dont la Bulgarie qui voulait, il y a eu un veto de la Russie, et donc l'Arménie a dit OK pour l'Azerbaïdjan, et donc du coup, on va se retrouver avec l'Azerbaïdjan l'année prochaine. Alors, ce qui est une très mauvaise nouvelle et ou une bonne nouvelle, parce que sinon, on aurait dû faire une COP alternative à Bonn, comme on avait eu pour la COP Fidji en 2017, et ça aurait été encore le président de la COP 28 qui aurait été encore président. Donc là, déjà, on a évité le pire. Voilà. Donc ça, c'est la question globale. Maintenant, sur les énergies fossiles, c'est un drame, cette histoire d'énergie fossile, parce que tout le monde joue avec le feu. Je pense que tous les gens qui participent à votre manifestation sont très largement au courant. Bien évidemment, il faut l'arrêter. Mais comment on va gérer tous ces pays, sachant qu'il y a de plus en plus de pays, même en développement, même parmi les pays les moins avancés, qui commencent à être des émetteurs nets par rapport à la production et qui commencent à être des exportateurs assez significatifs et qui appartiennent à l'OPEP. Vous avez dû entendre parler de l'annonce là, de l'OPEP, qui remettait un petit peu des possibles mots sortie des énergies fossiles, diminution des subventions. Mais tous ces sujets-là, ils sont sur la table depuis des années. Moi, je les ai déjà vus au sommet de la Terre en 92 et on n'arrive pas à s'en sortir. Et il n'y a pas eu une déclaration du G20, G7, G8, où tout le monde disait on doit, mais il n'y a jamais eu de texte. Donc aujourd'hui, on a réussi un petit peu, je dis on parce qu'on fait partie des acteurs qui bougent un peu les choses, on a réussi à mettre en avant cette trajectoire. Et cette trajectoire, c'est le scénario net zéro énergie de l'AIE. Il n'y a pas que, il y a l'IPCC, le GIEC, il y en a d'autres, il y a IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables. Et là, on sait très bien ce qu'il faut faire. Et je vais vous dire maintenant les chiffres de ce que l'on doit faire, et je pense que vous allez comprendre la complexité de discuter avec ces gens-là. D'accord ? C'est que, sans rentrer dans le détail, parce que je ne veux pas perdre tous les auditeurs, d'une manière générale, on doit tripler les capacités renouvelables, on doit doubler le taux d'amélioration de l'efficacité énergétique, on doit avoir des engagements des sociétés pétrolières et gazières à diminuer leurs émissions, notamment méthane, de 75%, et notamment des mécanismes significatifs à grande échelle pour soutenir les investissements renouvelables et adopter des mesures pour garantir une diminution ordonnée de l'utilisation des combustibles fossiles. Et là où je vais vous donner juste deux chiffres, comme ça chacun aura compris le débat, le combat, je pense qu'on peut appeler le terme combat, c'est que par exemple, au niveau des sources d'électricité, d'accord, on devrait diminuer les sources d'émissions de quasiment 71% les émissions pour le secteur électrique en 2030. Je ne sais pas si vous entendez le chiffre, 71%, donc c'est juste monstrueusement colossal, pour atteindre quasiment 100% en 2050. Donc j'ai bien dit, pour tout ce qui va être l'électricité d'origine carbonée, on doit diminuer nos émissions de telle taille. Ce qui veut dire, si maintenant je vais aussi sur la partie des énergies fossiles, ça veut dire que ces gens-là, on va leur demander d'ici 2050, alors là, écoutez bien le chiffre, de diminuer de 95% la part des énergies fossiles dans la production d'électricité. Là, je donne juste un zoom sur l'électricité, je pourrais parler du thermique, qui est quand même la plus grosse partie du secteur énergétique mondial. Et voyez bien que ces gens-là, c'est comme si on leur demandait d'oublier et ou de perdre une partie de leurs revenus. Et donc, c'est un combat de titans. On travaille, on use, on essaye, on met. Et je vais vous donner une autre solution. La solution que nous, on préconise, c'est de travailler à rendre désirable, j'emploie le terme qu'on a dans les scénarios de sobriété et de transition énergétique juste, désirable les énergies renouvelables et les transitions énergétiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la parité économique, la plupart des filières d'énergie renouvelable sont quasiment moins chères déjà que les filières fossiles. Et donc ce qui veut dire, alors je ne peux pas généraliser, mais quand même, sur les majeurs. Et donc nous, notre objectif, c'est de travailler sur un cadre de mise en œuvre pour qu'à un moment donné, il y ait un basculement dans la consommation, parce que c'est aussi le consommateur qui est dans la danse. Ils n'arrêteront pas, ils n'arrêteront jamais tant qu'il n'y aura pas autre chose à proposer et ou autre chose achetée par le consommateur, quel qu'il soit, individu, collectivité, entreprise ou autre, donc ce qu'on appelle les consommations et productions. Et donc vous voyez bien que du coup, c'est un combat titanesque. Et juste pour terminer là-dessus, et je pense comme ça, je donnerai vraiment le panorama sur le sujet des énergies fossiles, c'est qu'en fait, on est dans le grand écart. Tout à l'heure, je parlais du financement qui a été, ce qu'on appelle un pledge, qui a été annoncé pour le pertes et dommages. Alors maintenant, je vais vous parler des besoins d'adaptation. On a des besoins entre 215 et 315 milliards de dollars par an. Chacun se souviendra que pour l'atténuation, on parle de 100 milliards de dollars par an. Alors maintenant, juste pour terminer ce point-là, enfin, à moins que vous ayez d'autres questions, bien sûr, au niveau des énergies fossiles, je ne sais pas si vous imaginez la part des subventions au niveau mondial. Alors je vous donne le chiffre, parce qu'on n'a pas le temps. Aujourd'hui, on prend les chiffres du Fonds monétaire international, on a 7000 milliards de dollars par an. Je répète le chiffre, pour que tout le monde en ait bien la conscience. 7000 milliards de dollars par an de subventions aux énergies fossiles. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas que les compagnies qui jouent mal la danse, c'est qu'il y a une foule d'acteurs qui se foutent un peu de notre gueule, pardon, mais je n'ai pas d'autre mot, parce qu'à un moment donné, 7000 milliards, donc on ne parle pas qu'il y a des difficultés de faire de la projection, prévisionnabilité de financement, et ces 7000 milliards, c'est 7,1% du PIB mondial. Je pense que chacun a compris l'ambition, l'ampleur des dégâts, et l'année dernière, pour vous dire, on avait 5500 milliards de dollars. Donc on a encore augmenté la folie. On est passé de 5,5% à 7,1%. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la personnalité de ce président, aussi contradictoire, paradoxal soit-il, qui effectivement pose un problème, notamment sur les gens qui subventionnent et qui soutiennent financièrement la mise en place de ces COP. Mais l'air de rien, c'est qu'on est dans une guerre de titans avec des financements colossaux qui dénaturent la réelle compétitivité et la réelle disponibilité d'utilisation des énergies renouvelables, sachant qu'on a des scénarios, que ce soit l'AIE, que ce soit l'Agence internationale de l'énergie, IRENA, ou même en France, l'ADEME, qui nous parle de scénarios crédibles à quasiment 100% d'énergie décarbonée, avec une disponibilité suffisante des matériaux et des ressources et des terres rares. Voilà. J'ai été un peu long, mais le sujet de l'énergie, pour moi, c'est le plus gros, je vais employer un terme brutal, que je n'emploie pas quand je négocie, vous l'avez compris, parce que je suis obligé de jouer une danse, mais qui est la plus belle arnaque de l'histoire de l'humanité. Et je pense que beaucoup de Français ou autres qui ont un peu de colère, il ferait bien aussi de se poser quand même des questions sur comment on a nos modes de consommation et de production, comment se fait-il qu'on a des SUV qui sont des tanks, et ainsi de suite. On devrait, à un moment donné, se poser des questions, parce que si on veut court-circuiter ces acteurs qui, effectivement, foutent en l'air la planète, c'est quand même très clair, eh bien, à un moment donné, on n'a pas beaucoup d'alternatives. L'alternative, c'est qu'il faut leur enlever leur budget. Voilà. Et dernier mot, et comme ça, je refais peur un peu à tout le monde, mais j'en suis vraiment désolé, parce que c'est un sujet qui est juste flippant, je l'avoue. Moi, ça fait 30 ans que je travaille sur des sujets qui sont très durs, parce qu'on voit l'aberration et la laideur de l'humanité, et on doit se battre pour promouvoir des solutions, c'est ça. C'est la réalité à Énergie 2050. Mais en tous les cas, juste pour vous dire qu'aujourd'hui, en plus, deuxième problème, c'est qu'on n'a jamais eu autant d'énergie fossile sous terre. On n'en a jamais eu autant. On en trouve tout le temps, partout. Partout. Et avec l'Arctique, l'Antarctique, on va en trouver encore plus, avec les terres qui se dégèlent. Donc, on a un deuxième défi, c'est que non seulement on subventionne cette folie, cette hérésie, j'ai presque envie de dire, sans connotation religieuse, bien évidemment, cette hérésie. Mais là, de plus, on n'a jamais eu autant d'énergie fossile sous terre. Alors, ça ne veut pas dire qu'un jour, il n'y en aura pas, mais dans combien de décennies, de siècles, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, quand on regarde toutes les analyses que nous, les scientifiques, on fait, que les ONG faisons, que les institutions internationales font, on a 3500 milliards d'équivalents tonnes de gaz à effet de serre sous terre. et je vais le traduire de manière très facile pour vos auditeurs, ça correspond à peu près à 7 fois le budget carbone qu'on a bouffé depuis le début de l'ère industrielle. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de raconter. Donc, on a sous terre 7 fois le budget qu'on a bouffé depuis le début de l'ère industrielle. Ce qui veut dire que ça, plus les subventions, la folie, les contradictions, nos approches complètement schizophrènes et un désintérêt, parce qu'il faut quand même le dire, de la plupart d'acteurs, des acteurs, on est face à un monstre, une espèce de, vous connaissez le terme des bombes carbone, il y en a 142 aujourd'hui, et rien qu'une dizaine de ces bombes peuvent foutre en l'air le potentiel carbone pour arriver à une possible rupture carbone d'ici 2030-2050. Voilà. Je suis vraiment désolé, c'est pas des chiffres très sympathiques, et nous, évidemment, vous avez compris, ben on se bat, parce qu'on a besoin de rationalité, on a besoin d'économie, on a besoin de politique, on a besoin de lutter, mais avec des chiffres, avec des faits, avec des stratégies et avec des solutions. Voilà.
Bah c'est vrai que ce même changement climatique libère des zones pour exploiter les origines de ce changement. Donc c'est assez terrifiant. Merci beaucoup hein, Stéphane pour ton temps. C'était court, mais en tout cas, j'espère que ça a pu bien informer les auditeurs sur cette COP28 et les enjeux qui vont avec. Merci beaucoup Stéphane. Nous, on se retrouve dans quelques minutes après une petite pause musique.
C'était un plaisir et bonne fin de journée et bonne continuation pour votre manifestation. Au
revoir. Merci beaucoup.
Merci Stéphane.